Bonsoir Fabienne Synthèse.
Et c'est qu'il a jamais été 18h, presque aussi pile. Merci beaucoup Charline et la bande, à demain, n'abusez pas plus que d'habitude. Nous c'est parti, le 18-20 de France Inter reste ouvert pendant les fêtes, allez-y. Poussez la porte et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Pas d'exception à la règle avec ce premier journal de la soirée et celui d'Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi 24 décembre commence par une certitude du gouvernement.
La grève est finie, est-ce un conte de Noël que se raconte le gouvernement? En tout cas il le martèle et parie sur un essoufflement des forces pendant les fêtes. Mais pour les voyageurs, les difficultés sont bel et bien encore d'actualité. Pas facile de rejoindre la famille ce soir. Et cela va durer, le week-end prochain la SNCF compte faire circuler 60% des TGV. Outre le débat sur les retraites, vous vous disputerez peut-être ce soir autour du foie gras et de la souffrance animale. En Pologne aussi, on se déchire autour d'un plat emblématique, la carpe. Nous irons aussi à Bethléem où Noël est l'occasion d'un message de paix délivré par les chrétiens. En Turquie, où un riche homme d'affaires emprisonné par le régime reste en détention malgré les appels de la justice européenne pour le faire libérer. Et en Australie, où les forêts brûlent, un skipper français vient d'arriver là-bas pour participer à une course. Il nous racontera l'ambiance étouffante. En France, des risques de crues en Charente et d'avalanches en Savoie, le point météo à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, nous partons à la rencontre des peuples autochtones du Grand Nord. Ils chassent le narval au harpon, l'ours blanc et le phoque. Ils ont internet, ils surfent sur les réseaux sociaux, le permafrost fond sous leurs pieds, mais ils ne trouvent pas tous que c'est une catastrophe. Bref, ils vont vous étonner et vous décontenancer aussi peut-être, ou vous réjouir grâce à Francis Latreille qui est photographe et qui les fréquente depuis plus de 20 ans, qui sera là avec nous. Le bruit du monde ce soir est en Suisse et puis 19h20, le téléphone sonne, on regarde sous votre sapin ce soir, les chiffres sont tenaces. 549 € par personne en moyenne sont consacrés aux fêtes de fin d'année. Et pourtant, on voit monter cette tendance à plus de cadeaux responsables, plus écolos. L'empreinte carbone des fêtes, vous êtes nombreux à chercher à la baisser. Racontez-nous 01 45 24 7000.
France Inter.
Le gouvernement y croit, le mouvement contre sa réforme des retraites est terminé.
Circuler, il n'y a plus de grève à voir, c'est en résumé le discours à Matignon. Pas sûr que cela convainque des voyageurs en difficulté, on va y revenir car les perturbations persistent dans les transports en commun. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Le Premier ministre insiste pourtant, selon lui, la crise est terminée comme un miracle de Noël.
Ah non, pas un miracle. La force de la concertation du très bon accord, dixit Matignon, celui qui a été conclu en fin de semaine avec les réformistes de l'UNSA. Alors quand on objecte à l'entourage d'Edouard Philippe que le trafic est encore très perturbé, que les grévistes tiennent encore les piquets, il répond que la raison doit maintenant l'emporter, qu'il faut arrêter de s'obstiner quand on a obtenu des gages. L'exécutif a les yeux rivés sur les chiffres des grévistes qui fondent effectivement, depuis ce week-end comme la banquise, plus de 31% à la veille des vacances dans les transports, moins de 10% aujourd'hui. Et si le gouvernement se défend de jouer le pourrissement, il escompte, sans l'avouer, que le Noël gâché de certains Français finira par retourner l'opinion publique. En défendant que la grève n'a plus lieu d'être à la SNCF, le Premier ministre entend casser ce qui a pu apparaître comme une coagulation ou une convergence des colères contre la réforme des retraites. Très clairement, sans les cheminots, cette convergence serait beaucoup moins performante. D'où d'ailleurs l'insistance des dirigeants de gauche à se rendre dans les gares pour entretenir avec les grévistes un brasier dont ils espèrent un grand retour de feu début janvier.
Merci beaucoup Laurence Perron. Voilà donc un cadeau que les syndicats ne glisseront pas sous le sapin du gouvernement. La fin du mouvement social, pas pour tout de suite, selon Philippe Martinez, le patron de la CGT. Chez nos confrères de France Info, il regrettait d'une part de ne pas avoir reçu d'invitation pour les concertations annoncées à la rentrée, le 7 janvier. D'autre part, rien n'est réglé pour lui.
Je crois que le sujet aujourd'hui, après les réunions de la semaine dernière, la grève continue. Il n'y a pas de trêve, et on s'en félicite, c'est que le mécontentement est là, donc il faut prendre les affaires autrement, il ne faut pas faire comme si tout allait bien dans ce pays. Il faut que le gouvernement reconnaisse qu'il y a un mécontentement dans ce pays. 62 à 68% de l'opinion publique soutient ce mouvement. Ça devrait interpeller ces grands dirigeants du gouvernement. Malgré toutes ces provocations des ministres, malgré ces insultes parfois aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays, eh bien le mouvement social, il est majoritairement soutenu par l'opinion publique.
Philippe Martinez de la CGT. Dans les transports, cela reste effectivement très compliqué. Toujours près d'un conducteur sur deux en grève à la SNCF. En Ile-de-France, des lignes sont en train d'être fermées. Elles ne rouvriront que demain après-midi. Demain, 14 lignes de métro resteront à l'arrêt à Paris. Pour le RER, la ligne A sera fermée toute la journée dans la capitale. Le dirigeant de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, assure que le mouvement a déjà coûté 400 millions d'euros à son entreprise en 20 jours. jours. Et cela risque de se poursuivre pour le week-end qui vient. Même si la compagnie annonce un léger mieux par rapport au week-end dernier, la SNCF compte faire rouler 6 TGV sur 10 entre vendredi et dimanche. Le voyage est confirmé et garanti pour la plupart des 800 000 voyageurs avec une réservation, dit la direction, sans préciser combien ne seront pas pris en charge. Pas évident dans ces conditions d'arriver à l'heure à votre réveillon ce soir. Écoutez, d'abord le soulagement de Corentin. Il est venu à bout de son Paris-Brest au micro de Morgane Klein-Refait.
Vendredi, on m'a notifié que le train était annulé. C'est en suivi à peu près une heure de stress, un peu, parce que tous les trains étaient mis complets. J'ai un peu regardé ce qu'il y avait comme possibilité éventuellement de bus, de BlaBlaCar. Il n'y avait pas non plus une offre extraordinaire. Et puis un petit peu par hasard, en recliquant pour la 10e fois, j'avais une place dans ce train, donc j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Ce qui est étonnant, c'est que là vraiment, le train était quand même à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend comment on le voit. Alors que voilà, c'était censé être complet, etc. À côté de moi, par exemple, il n'y avait personne. Du coup, le train était vraiment pas complet.
Et quand on n'a pas de train, on prend le volant sur la route. Il y a du monde. Jeanne Dossé, on vous retrouve au PC Mobilité de Radio France. On compte en ce moment en région parisienne un peu plus de 300 km de bouchons.
Oui, avec un périphérique très encombré tout autour de Paris. À noter cependant que ça roule un peu mieux dans le quart sud-ouest du périphérique entre la Porte d'Italie et la Porte d'Auteuil. Nos cartes sont au vert. Au sud de Paris, la 86 extérieure est chargée dans les environs de Massy. Vous êtes retardé de presque 40 minutes à partir de Massy jusqu'à Thiers. On prend la direction des Hauts-de-France maintenant avec des ralentissements tout autour de Lille, notamment sur l'A1 direction Lille. À partir de l'aéroport, vous mettez une demi-heure pour faire 4 km. C'est en raison d'un accident à hauteur de Ronchin. C'est aussi bien encombré dans la région lilloise sur les axes secondaires, notamment sur la D651 et la N356.
Merci Jeanne Dossé au PC Mobilité de Radio France. Un Noël où les motifs pour s'enguirlander risquent de s'accumuler autour du sapin. On vous déconseille le débat sur les retraites, peut-être celui sur la surconsommation, l'abondance de cadeaux ou le foie gras et la torture animale. Un débat que l'on retrouve aussi en Pologne avec une autre tradition depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années de communisme. C'est la carpe. Plus de 20 000 tonnes de ce poisson se sont vendues l'an dernier. Souvent, elles sont encore vivantes. Les Polonais les gardent chez eux avant de les tuer eux-mêmes. Une tradition menacée là aussi par les protecteurs des animaux, les modes alimentaires et le sang-froid nécessaire pour achever les carpes. C'est la correspondance de Thomas Giraudot.
Une bonne centaine de carpes s'agitent dans une minuscule piscine remplie d'eau à l'entrée d'un supermarché de Varsovie. Anna vient d'acheter la sienne pour le réveillon, enfermée dans un sac plastique sans eau. Elle respire encore.
Oui, c'est moi qui la tue, toute seule. Avec une petite hache, une feuille de boucher, je lui coupe la tête et voilà. C'est ma mère qui me l'a appris. C'est une tradition familiale.
C'est la technique la plus répandue pour tuer une carpe, mais beaucoup de Polonais ne la maîtrisent pas. Edeta en a exceptionnellement acheté une l'an dernier.
Le poissonnier l'a assommé et me l'a donné dans un sac rempli d'eau. Elle ne bougeait plus, donc il a dû frapper fort. Je l'ai apporté chez moi, j'ai vidé l'eau du sac et je l'ai mise au frigo. Je l'ai préparée seulement le lendemain, donc je pense qu'elle est juste morte de froid dans le frigo.
La mort de la carpe est une ultime souffrance après tant d'autres subies par ce poisson. Comme le raconte Cesare Wyszynski, il dirige la Fondation pour la protection des animaux Viva en Pologne.
Dans les piscines des magasins, l'eau est couleur sang, sale, sans oxygène, surpeuplée de poissons. Ils sont achetés dans un sac plastique et jetés dans le caddie. Parfois, les clients mettent des produits par-dessus, les écrasent et les laissent suffoquer.
Cesare met la pression sur les chaînes de supermarchés. Certaines ont arrêté de vendre des carpes vivantes. D'autres continuent pour satisfaire, disent-elles, la demande des clients attachés à la tradition. Varsovie, Thomas Giraudot, France Inter.
Voilà, et surtout, mon réveillon. Autre bon coutume appétit. De Noël, c'est beaucoup plus pacifique à Bethléem, lieu de naissance de Jésus selon la Bible.
Bethléem, ville palestinienne en Cisjordanie occupée en grande partie par Israël, où des milliers de chrétiens du monde entier se réunissent ce soir pour une messe particulière. Les chants de Noël en arabe sont diffusés à travers des haut-parleurs dans le centre-ville. Une période propice à des messages de paix à l'image de celui du père Ibrahim, le chancelier du patriarcat catholique de Jérusalem.
Aux fidèles du monde, j'ai dit, il faut toujours prier pour la paix et pour la communauté chrétienne de la Terre Sainte, car si le Seigneur lui-même n'intervient pas pour qu'il change la mentalité du chef politique, on n'arrivera jamais à la paix. Deuxièmement, il faut aider le peuple palestinien et le peuple israélien à rencontrer l'homme palestinien et l'homme israélien normal. J'ai dit normal, car notre rencontre comme Palestinien est toujours avec les militaires israéliens et on pense toujours aux Israéliens qui font les checkpoints. Et pour les Israéliens, nous les Palestiniens, nous sommes des terroristes et nous sommes là pour le tuer, pour les chasser du pays. Cet message de Noël, Jésus qui se fait homme pour nous, se fait homme pour les chrétiens, se fait homme pour les musulmans, se fait homme pour les juifs. Il se fait homme pour les Palestiniens et pour les Israéliens et pour les gens de tout le monde.
Le père Ibrahim à Jérusalem au micro de notre correspondant Frédéric Mettezo. À l'étranger encore, on manifeste en Algérie. Un millier d'étudiants et de citoyens plus âgés ont défilé contre le régime, malgré le deuil national décrété au lendemain du décès du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, pilier d'un système décrié par le Hirak, la rue algérienne. En Turquie, la justice maintient en détention l'un des grands rivaux du président Erdogan. Il s'appelle Osman Kavala, c'est un homme d'affaires, un philanthrope. Il est en prison depuis 2 ans, accusé d'avoir soutenu le mouvement de Gezi, mouvement de contestation anti-gouvernementale né en 2013. La Cour européenne des droits de l'homme demande sa libération, mais un tribunal turc vient de lui refuser. Son portrait avec Eric Bigala.
Riche, libéral, soutien du dialogue kurdo-turc et financeur de groupes artistiques turco-arméniens, Osman Kavala, c'est en fait la bête noire des nationalistes turcs et du président Erdogan lui-même qui reprend de plus en plus souvent les anciennes nationalistes. Une bête noire fantasmatique, le président turc l'a même qualifié de George Soros rouge. Un George Soros qui est, toujours selon Erdogan, que je cite, « ce juif hongrois qui finance avec son argent la destruction des nations ». Le président turc, en effet, est coutumier des sorties complotistes, certaines flirtant avec l'antisémitisme. Quant à Osman Kavala, effectivement partenaire de la fondation Soros en Turquie, les accusations qui pèsent sur lui semblent, au gré des audiences, de plus en plus ridicules. Ce mardi, par exemple, 2 policiers cités à la barre n'ont pu que confirmer qu'ils n'avaient pas vu Kavala prendre part à la moindre action violente lors des manifestations de 2013 à Gezi Park. Lors de la précédente audience, en octobre, les éléments incriminants reposaient sur des écoutes où l'on entendait Osman Kavala confirmer, par exemple, qu'il obtiendrait des sandwichs pour les manifestants de Gezi Park pour le parquet turc. Cela semblait suffisant pour évoquer l'organisation par lui d'une rébellion armée. En résumé, les 2 audiences du procès auront surtout été l'occasion de constater l'inanité des accusations et incidemment le triste état de l'état de droit en Turquie.
Les tortues et les otaries des Galapagos sauvées. On craignait le pire après le déversement de diesel dans la mer à cause d'un accident sur une barge. L'archipel du Pacifique inscrit au patrimoine naturel de l'humanité abrite des espèces fragiles, mais aucune n'a été affectée, assure le gouvernement. En Australie, ce sont les feux de forêt qui font des ravages autour de Sydney, notamment Sydney qui accueille également en ce moment l'une des courses à la voile les plus célèbres au monde, la Sydney Hobart, départ prévu jeudi, dans une atmosphère étouffée. Le skipper français Nicolas Luneven participe à cette course. Il est arrivé il y a quelques jours en Australie.
Ces incendies très très importants sont déjà à un pas très très loin de Sydney et puis sont évidemment le sujet de nombreuses conversations ici à Sydney, pas forcément qu'entre Français mais aussi avec les locaux. C'est vrai que c'était surtout une inquiétude générale par rapport à ces incendies qui ne sont pas très 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 loin de Sydney. Quand on regarde les cartes, ça fait quand même un petit peu peur. Il y a 10 ou 15 jours, ils avaient une régate ici qui a été annulée parce qu'en cours de la régate, le nuage de fumée s'est densifié de manière très importante. Du coup, il y avait une visibilité qui était quasiment nulle. Et puis, il y a un autre équipage français qui fait la course. Eux, 2 jours avant que j'arrive, ils disaient qu'ils étaient dans ce nuage de fumée qui faisait un brouillard digne de la mer d'Iroise.
Nicolas Luneven, skipper français qui va s'élancer dans la Sydney Hobart. Il était joint par Jérôme Val. Et puis un joyeux anniversaire pour terminer à l'un de nos plus illustres artistes encore vivants, le peintre Pierre Soulages. Il fête son centenaire aujourd'hui, 100 ans pour le créateur de l'Outre Noir. Et pour le célébrer, il y a l'exposition en ce moment au Louvre. Et puis aussi cet entretien exceptionnel qu'il a donné à Léa Salamé et à Nicolas Demorand. C'est à réécouter sur franceinter.fr.
Merci beaucoup Amélie Perrier. On se retrouve tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Ce soir, je vous en même dans le Grand Nord et aussi en Suisse, c'est pas pareil. Et à 19h20, le téléphone sonne, je vous le remets dans l'oreille, on essaye de réveillonner responsable et plus écolo. Ce soir, vous avez peut-être sauté le pas, renoncé au cadeau première main, réduit votre consommation des fêtes à quelque chose de plus raisonnable, renoncé aussi au foie gras, tiens, on en parlait à l'instant, réduit votre empreinte carbone, venez nous le raconter. Dites-nous aussi d'ailleurs quand c'est pas simple, parce que les chiffres disent quand même que les fêtes restent un gros poste de dépense pour chacun d'entre nous. Ça se passe au 01 45 24 7000. Et sinon, comment ça se passe dans le ciel?
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Des fois, les fêtes, c'est aussi une affaire de défense, vous savez. Allez, Jean-Pierre Hameau, une météo très calme, mais alors vraiment très calme pour le réveillon.
Ah oui, à part de toute petite pluie dans le nord-est sous un ciel assez nuageux, la nuit sera calme sous un ciel souvent étoilé. Puis demain matin, les bancs de brouillard et les nuages bas seront présents sur une grande moitié ouest du pays, en particulier entre le Sud-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Dans le nord-est, vous vous réveillerez sous une bonne couverture nuageuse avec en prime de toute petite pluie. En revanche, le soleil va briller généreusement des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes et de la région PACA à la Corse. Et puis l'après-midi, vous retrouverez des nuages dans le nord-est et le long de la Garonne, du soleil dans un grand quart sud-est et de belles éclaircies dans les autres régions.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup Jean-Pierre, à tout à l'heure après 19h.